Plus magnétique, bonsoir. La fabrique de l'homme occidental. Il y a une image qui me vient soudain pour présenter ce soir cette série très particulière des Nuits magnétiques, combattue pour vous Pierre Legendre et Pierre-Olivier Bardet. C'est une image à la fois très ancienne et d'aucun temps. C'est l'image de la maison, quand on est tout petit, que l'automne pointe son nez, qu'il faut faire un peu de feu dans la cheminée, et que la mère, dans un coin, recouvre les livres d'un papier transparent, qu'elle signe le carnet de correspondance et qu'elle trace fièrement en écriture gothique, sur la première page de chaque cahier, le nom et le prénom de ses enfants. Ce prénom qui a sans doute traversé des générations, de mère en fille, de père en fils. Sur chaque vêtement, elle coud aussi ces mêmes lettres tissées en rouge et blanc. Et les enfants, eux, quand ils la regardent faire, et qu'en même temps leurs yeux se ferment déjà, ils ne savent pas au juste si c'est le vêtement qu'elle a peur de perdre ou si c'est leur corps à eux. Mais oui, dans le fond, sans ce nom, existerait-il vraiment? En suivant le trajet de l'aiguille et du fil, qui les marque presque d'une seconde peau, ils aiment bien se poser ce genre de questions. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Qui les a fabriqués? Sont-ils les vrais enfants de leurs vrais parents? Tiens d'ailleurs, à propos de parents, il me vient aussi une autre image en pensant au nom même de Pierre Legendre. C'est une image prise cette fois dans le Nouveau Testament. Quand Jésus demande aux apôtres « Dites-moi qui je suis » et qu'il attend de chacun la bonne réponse. Seul Simon lui répond « Toi, tu es le Fils ». Et à ce moment-là, Jésus le baptise d'un autre nom, Pierre. « Puisque tu as su répondre, dit Jésus, mais que ta réponse ne vient pas de toi, mais du Père, je vais te nommer Aben, la pierre. Ab, parce que c'est le Père, et Ben, parce que c'est le Fils. Aben, ça veut dire pierre en hébreu. Et sur cette pierre, tu bâtiras ton église. » Voilà comment, à partir d'un glissement de sens, un nouveau nom a pu être donné. Voilà aussi comment, à l'intérieur même du nom de Pierre Legendre, se cache sans doute depuis longtemps le Père et le Fils. Pierre Legendre, vous vous en souvenez peut-être, s'était fait connaître par son livre « L'amour du censeur » paru au Seuil en 1974. D'autres titres sont parus ensuite chez Fayard, « Le crime du caporal Lorty »,« Le désir politique de Dieu »,« L'inestimable objet de la transmission ». Et depuis un an, il a créé à Paris le laboratoire d'études sur la filiation. Nuit magnétique, toute cette semaine donc, la fabrique de l'homme occidental par Pierre Legendre et Pierre-Olivier Bardet. Ce soir, la marque.
Dans les émissions que vous allez entendre, il va être question de ce qu'il y a de commun aux hommes partout sur la planète et dans tous les temps. Il va être question du cycle de la vie et de la mort. Il va être question de généalogie. Apparemment, rien n'est plus simple. Nous sommes enfants de nos parents qui sont eux-mêmes enfants de leurs parents. Et ainsi de suite. Les générations se succèdent, l'humanité se reproduit. Lorsque des enfants naissent, on les réfère à leurs parents. Qu'est-ce que ça veut dire, les parents? Cela veut dire non seulement des parents physiques, mais des parents répertoriés, classés, inscrits, reconnus comme parents. Dans la culture européenne, ils sont inscrits sur des registres officiels, l'état civil, où sont consignés les noms et l'histoire des filiations. Traditionnellement aussi, dans notre culture, les parents physiques et les parents répertoriés sont les mêmes personnes. Mais il y a des exceptions. Si un enfant naît d'une mère qui ne veut pas dire son nom, si un enfant naît sous X et de père inconnu, la société agence toute une construction pour nommer cet enfant et lui procurer des parents. Ou bien l'État supplée à l'absence des parents physiques en faisant lui-même office de parent reconnu à travers l'assistance publique, ou bien il donne cet enfant en adoption à d'autres qui seront ses parents, parents aussi vrais que s'ils étaient parents physiques. Vous voyez, la fabrique de l'homme n'est pas une usine à reproduire des souches génétiques. Ce sont des lieux innombrables, les lieux désignés par les cultures, au premier rang desquels la famille telle que nous la connaissons en Occident, des lieux qui servent à aider l'homme à naître, afin qu'il parvienne à vivre pour son compte et en son nom. Quand l'être humain sort du ventre maternel, il n'est pas tout à fait né. Il va lui falloir naître une seconde fois. C'est à cela que sert la généalogie, à rendre possible cette seconde naissance. La généalogie est l'aventure de la parole pour chaque être humain. La généalogie dans notre espèce n'est pas un phénomène physiologique. Elle provient d'une autre nécessité que la biologie. Elle est liée à la nécessité propre à l'animal parlant de recevoir l'aide de la parole pour accéder lui-même à la parole, c'est-à-dire pour vivre la vie pour son compte et en son nom. Cela suppose l'institution des mères et des pères, l'entrée de l'enfant dans sa condition de fille ou de fille ou fils d'une telle et d'un tel. C'est de cette grande affaire où s'entrecroisent les bonheurs et les drames, c'est de cette grande affaire où les individus et les sociétés nouent leur destin qu'il va être maintenant question. Fabriquer l'homme, c'est fabriquer les parents et les enfants. Les parents ne sont pas les enfants ne sont pas les parents. Ce sont des places et des conditions différentes. Quand il y a de l'embrouillamini entre les parents et les enfants, les choses ne vont plus. Différencier parents et enfants pour faire en sorte que les choses de la vie se passent bien, c'est ça la généalogie. Un certain ordre des choses imposé par la vie, l'ordre de la filiation. La généalogie est le montage qui, en toute société, consiste à marquer les places en marquant les humains. Qu'est-ce que ça veut dire, marquer? Qui nous marque? Et qu'est-ce qui en résulte? Par des récits et par des témoignages, nous allons parcourir ces questions qui sont le lot de toute l'humanité. Ici, nous sommes en France, un pays qui a ses traditions et ses mœurs institutionnelles. Mais nos manières généalogiques se comprennent mieux si nous n'oublions pas le reste du monde.
Charles Malamud, Paris, juin 1992.
Il y a assez peu de discours dans les textes indiens qui soient directement anthropologiques au sens où ils nous parleraient de la condition humaine. Mais tout de même, il y en a. Il y en a, et il y a un texte bref, mais auquel j'attache un très grand prix, parce qu'il me paraît fécond. C'est cette formule que l'homme... C'est un animal, une victime animale sacrificielle qui se distingue des autres en ce que cette victime sacrificielle peut être elle-même un sacrifiant. Autrement dit, nous sommes d'emblée placés dans le cadre du rite sacrificiel, et que l'homme est défini par cette réflexivité. Il sacrifie et il peut être sacrifié. Et il peut aussi se sacrifier lui-même. Cela implique beaucoup de choses. Cela implique principalement, oui, cette capacité de se prendre soi-même pour objet, qui distingue donc l'homme de toutes les autres espèces. Cela implique aussi cette idée que quand on offre un sacrifice, quand on célèbre ce rite par excellence qu'est le sacrifice, eh bien, on est en tant qu'homme impliqué de bien des façons, En tant qu'agent, bien sûr, mais aussi en tant qu'oblation. Sans doute, il ne faut pas prendre cela littéralement. Bien qu'on ait des traces, et plus que des traces, de rites sacrificiels dans lesquels la victime est véritablement un être humain, autrement dit qu'on ait des indications sur l'existence à l'époque ancienne de sacrifices humains, ce n'est pas ainsi qu'il faut prendre essentiellement la définition. Cela veut dire, et alors cette interprétation-là est valide généralement et non pas pour ces cas limites que sont les sacrifices humains, cela veut dire que lorsque l'on célèbre un rite sacrificiel, eh bien, quelles que soient les modalités d'exécution, quel que soit le choix de l'offrande que l'on fait, quel que soit le choix de la victime animale que l'on doit immoler lorsqu'il s'agit d'un sacrifice animal, ce qui n'est pas toujours le cas, de toute manière, il y a offrande de soi-même. De toute façon, ce qui est en cause dans ce processus, c'est ça, c'est la perte que l'on fait de soi-même, la transformation que l'on fait subir à son propre être, mais transformation qui passe nécessairement par des découpages sur sa propre personne et des dédoublements de sa des démultiplications, disons, de sa propre personne qui font que une partie de soi est offerte.
Oui, enfin, là-dedans, il y a quelque chose qui me paraît tout à fait essentiel pour nous, c'est de concevoir cette représentation fondamentale dans l'humanité à travers cette expérience védique qu'il n'y a pas de vie dans l'espèce humaine sans cette dimension qu'on appelle le sacrifice.
Dimension qui implique, pour rejoindre ce que vous alliez peut-être dire, pardon si je vous ai interrompu, qui implique le caractère constituant de la parole.
Voilà.
Car le sacrifice est un acte, bien sûr, une série de gestes, mais qui serait totalement inconcevable et dépourvu de sens s'il n'y avait la parole, d'une part la parole qui enjoint le rite, et d'autre part, la parole qui accompagne les gestes et les transforme en rite. Par conséquent, d'emblée, par cette définition sacrificielle de l'humanité, l'humanité est installée dans la parole qui la constitue.
C'est ça. Et est-ce qu'on peut dire, dans cette perspective, que la parole d'humanisation et la parole tout court implique le sacrifice. Autrement dit, que ce que on appelle la dimension sacrificielle étant une dimension de parole, eh bien que la parole elle-même dans l'humanité est construite sur la base de quelque chose qui peut nous paraître tout à fait obscur, qui est précisément le sacrifice. Autrement dit, qu'est-ce que, en parlant, nous sacrifions et à quoi sacrifie-t-on, si je puis dire ainsi? Qui n'a pas accès au sacrifice n'a pas accès à la parole. Est-ce qu'on peut dire ça? Ce qui amènerait à penser aussi que le sacrifice n'est pas nécessairement un sacrifice physique.
En effet. Il est avant tout, soumission à la parole.
Voilà, c'est ça.
Et plus techniquement, plus concrètement même, la parole est... Alors, je reviendrai peut-être sur ce qu'est la parole, parce qu'il ne faut pas que cela reste dans le vague. Mais non seulement la parole est indispensable au sacrifice en tant qu'il est offert par les hommes qui eux-mêmes sont définis en tant qu'hommes par cette aptitude et ce devoir, cette obligation, mais encore, il est prévu que la parole en tant que telle est aussi le destinataire du sacrifice. C'est-à-dire qu'on sacrifie grâce à la parole et parce que la parole nous l'ordonne, mais également on offre soi-même des offrandes symboliques à la parole elle-même. La parole se pose en... comment dire, en partenaire de l'homme dans le circuit sacrificiel. Certains textes védiques nous proposent une définition de l'humanité par le programme d'obligation qui lui incombe. Et des textes tout à fait parallèles énonce le même programme d'obligation, mais en l'affectant, non pas à l'homme, mais à cette catégorie d'hommes qui est particulièrement habilité à sacrifier, et qui a donc un contact particulièrement étroit avec la parole, catégorie d'hommes que l'on appelle les deux fois nés, c'est-à-dire ceux qui ajoutent à la naissance biologique que les hommes partagent avec toutes les espèces animales, une naissance spécifiquement humaine et même à l'intérieur de l'humanité, une naissance propre à des groupes humains qui occupent le sommet de la hiérarchie sociale, et que l'on appelle donc les deux fois nés, qui sont les trois classes supérieures de la société indienne, brahmanique, et en particulier ceux qui occupent alors vraiment le sommet du sommet et qui ont pour vocation de traiter de la parole, de vivre dans la parole et par la parole, et que ce sont les brahmanes. Tous les êtres libres, tous ceux qui ne sont pas définis par leur état de servitude par rapport aux autres, peuvent entrer dans la grande catégorie des deux fois nés. Mais cette question de double naissance, elle est importante pour votre propos, parce que la deuxième naissance est évidemment tout autre que biologique. C'est une naissance qui se définit très explicitement, justement, comme une naissance à la parole. Et c'est à partir de cette deuxième naissance, naissance à la parole, que l'on est effectivement, lorsque l'on est un homme, un garçon, que l'on est effectivement un membre de la société à laquelle, de naissance, on est promis, mais dans laquelle on n'est pas encore véritablement inséré, tant que l'on n'a pas acquis cette deuxième naissance. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que dès la première naissance, dès la naissance biologique, et bien entendu, tout un ensemble de rites est célébré, comme partout, mais que parmi les rites qui sont célébrés au moment de la première naissance, il y a une sorte d'anticipation de la deuxième naissance, puisque le père biologique, le géniteur, prend son enfant nouveau-né, et toujours il s'agit de garçon, évidemment, sur ses genoux, et lui murmure à l'oreille cette parole qui doit être à la fois secrète et que tout le monde connaît. Il dit à son fils, tu es le Veda. C'est-à-dire qu'il l'identifie d'emblée à la parole, il lui donne d'emblée un corps de parole, programme qui ne sera effectivement mis en œuvre qu'au moment de l'initiation, comme on dit, c'est-à-dire de cette deuxième naissance, naissance à la parole, qui en fait marque le début des études védiques c'est-à-dire de l'immersion de cet enfant dans la parole védique. Et c'est ici qu'il est bon de préciser, c'est que quand on parle de parole, ce n'est pas seulement la faculté langagière, mais c'est le texte. C'est le texte normatif, c'est le corpus même du Veda.
L'homme commence par des cris. En Occident européen comme partout, à peine l'enfant a-t-il crié, que l'on donne un sens à ses pleurs, à son cri. Le cri du nouveau-né est déjà une parole. Est-ce que ce sont des cris de désespoir, ou y a-t-il du plaisir dans ces cris? Enveloppé dans les paroles de ceux qui l'aident à naître, l'homme arrive au monde, il arrive dans le monde du pourquoi. Il entre dans le mystère d'être là. Le cri de l'enfant, parce qu'il est déjà une parole, reçoit les paroles qui lui font écho. On lui parle. Le cri de l'enfant n'est pas perdu. Il attend d'être reconnu. Et cette reconnaissance est la première forme de la marque. Mais parce que les parents sont les porteurs du désir de la vie et non pas les propriétaires de l'enfant, d'autres que les parents sont appelés à faire écho au cri du nouveau-né. D'autres qui représentent l'au-delà des parents, la société et au-delà, l'humanité elle-même, vont répondre au nouveau venu, s'adresser à lui pour l'estampiller, le marquer, lui faire une place et marquer sa place. Venir au monde ne signifie pas seulement naître pour ses parents, mais naître pour ce qui les dépasse, naître pour l'humanité. Ainsi, au départ de la vie, la généalogie nous propose un théâtre où les parents viennent jouer, selon ce qu'ils sont, un certain répertoire, le répertoire de l'amour, tandis que la mise en scène et la distribution des rôles appartiennent à la culture, à la société. La culture est donc là, comme les parents, pour marquer le nouvel humain, pour l'estampiller. Mais la culture, la société est là prioritairement pour le marquage de l'homme. C'est cela sans doute que nous ne comprenons plus très bien. Nous ne comprenons plus très bien que nous puissions être reconnus enfants par les paroles de la culture, tout comme nous sommes reconnus enfants par les paroles de nos parents. À force de vouloir être libres, nous avons fini par penser que nous étions libérés des institutions, et que cette affaire d'institution ne concernait plus que les marginaux, parents en déroute, enfants handicapés, les fous, etc. Eh bien non, ce n'est pas ça. Alors souvenons-nous de toutes les institutions de marquage capitalisées par l'humanité. Voyez l'œuvre des mythes et des religions familières aux Occidentaux, la circoncision juive, le baptême chrétien, le rituel autour du choix du nom en islam maghrébin. Ces cérémonies, étaient-ce ou est-ce encore de la frime? Non. Ce sont de grandes inventions institutionnelles de l'humanité qui ont en vue la vie et la reproduction de la vie. Elles tirent leur efficience de s'adresser à la partie obscure de l'homme, de l'aider à fabriquer les images qui le fondent à vivre. Enfin, elles lui font surmonter l'indicible des commencements, l'effroi des origines. encore jamais vu, on ne verra jamais. Une société être gouvernée et tout simplement vivre, sans texte ni musique sacrée, sans les danses ou les liturgies du corps. Les cultures enfantent l'homme par des rites et des formes. Les anciens commentateurs exposaient que les rites sont comme une brûlure sur la peau. Ils employaient le mot technique latin inustio, en voulant dire par là que chaque humain reçoit la marque du troupeau, le signe de son appartenance à la communauté humaine. L'aurions-nous oublié que les nouvelles générations en mal non pas de vivre, mais de raison de vivre, nous rappellent qu'elles ont droit à recevoir leur dû, la marque de leur enfantement par la culture. Aujourd'hui, la peau des villes est tatouée, les murs accueillent les tags. La parole des jeunes s'adresse à des murs. En un certain sens, nous sommes devenus sourds et aveugles. Nous ne comprenons plus ce que marquer veut dire.
Daniel Boulet, Pessac, mai 1992.
Ce qu'il y avait de constant, enfin, chez les garçons et les filles les plus en difficulté, notamment chez les garçons, c'était que leur quête continuelle. Leur quête continuelle de... ils ne savaient pas trop quoi. Mais par exemple, qui les amenait à... ça, c'était vraiment quelque chose de tout... Je sais pas si ça leur est spécifique, mais ils dormaient pas la nuit. Et la nuit, ils passaient la nuit à errer dans la ville. À errer dans la ville pour rencontrer quelqu'un. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touchait beaucoup. Et... auquel, alors, ce qu'on peut répondre, c'est que les institutions traditionnelles ne répondaient pas. C'est-à-dire que les institutions traditionnelles ont beaucoup de mal à envisager les délinquances ou les problèmes qui se posent en termes de quête de quelqu'un qui viendrait incarner effectivement une fonction séparatrice, une fonction paternelle. Et ça, je pense à quelqu'un que je connais toujours, enfin que je connais toujours, qui me donne des nouvelles de loin en loin, tous les 5-6 ans, et qui avait une espèce d'obsession. Je me souviens une fois, il était avec quelqu'un, il était avec un monsieur, qu'il avait rencontré je ne sais pas comment, à qui faisait une demande impossible, bien sûr, c'est-à-dire la demande d'avoir tout, quoi. Et un jour devant moi, il a lâché le gros mot, quoi. Il lui a dit « Adopte-moi. Adopte-moi. » Et je crois que... Enfin, il me semble que ça, c'est véritablement la caractéristique de ces populations-là. C'est-à-dire d'avoir... une filiation qui s'incarne et qui tienne, quoi. Et qui tienne. Et dans le « adopte-moi » ou dans le « monsieur le juge, je veux partir à la Légion », il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très fort comme ça qu'on dit jamais, quoi. Qu'ils trouvent, malheureusement, quand ils deviennent des délinquants professionnels, incarnés par les figures des parrains du milieu, quoi. Voilà. Ça, on peut dire ça très simplement comme ça, quoi.
Vous avez dit une errance dans la ville, la quête d'une fonction. Est-ce que ça prenait aussi la forme de la quête du nom ?
Dans l'adoption et la Légion, il y a indiscutablement quelque chose qui a à voir avec le nom, bien entendu. Changer de nom. Il est d'ailleurs très fréquent que ces jeunes changent même de nom. Mais ils changent de nom dans la bande. Quand j'appartiens à telle bande Zoulou, je prends le nom de la bande. Je n'ai plus mon nom patronymique. Mais simplement, le nom de la bande Zoulou n'est pas un nom référé. C'est un nom hors la loi, quoi. Voilà quelque chose, effectivement, qui est effectivement très, très... Parce que le nom, ça incarne quoi ? Ça incarne ce qui se transmet et ce qui est immutable, c'est-à-dire, comme le sexe, ce sur quoi nous n'avons pas de pouvoir, qui nous dépasse et nous transcende. Voilà. Et c'est ça, cette fonction, si vous voulez, du nom... c'est pas le... Et puis ça renvoie aussi à la suite des générations, ça renvoie à la chaîne, à quoi ça nous relie de génération en génération. Mais on ne peut pas toucher au nom, on peut y toucher suivant des procédures extrêmement compliquées qui sont très très protectrices de l'identité, car le nom a à voir directement avec le noyau de l'identité, quoi. D'ailleurs, en chambre du conseil, puisque je n'étais pas seulement juge des enfants, mais juge de la chambre du conseil, en chambre du conseil, il était fréquent de voir des femmes venir dire « Je veux plus que mon fils porte le nom de celui qu'il a reconnu, par exemple. » Comme ça. Pourquoi ? Moi, je l'aime plus. Un juge des enfants, lors d'une session sur la filiation, nous citait un exemple extraordinaire d'une femme qui, chaque fois qu'elle avait un nouvel ami, faisait tomber la reconnaissance du précédent. Et donc son enfant changeait de filiation et de nom de père. Et les juges suivaient. Alors là, voilà une des fonctions du juge, quoi. Voilà. Arrêtez ça. Dire non. Dire non au changement de nom. Changement de nom, quand c'est la volonté toute puissante d'un individu, quoi. Que ça n'a pas à voir, effectivement, avec les procédures légales de changement de nom... de francisation du nom, de changer des noms qui sont ridicules, etc., qui sont des procédures enfermées dans des règles extrêmement protectrices. Car le nom, comme la quotité disponible en droit successoral, ça représente, ça n'appartient pas au père. Ça vient de la génération précédente et ça appartient à la génération qui suit, quoi. On est constamment dans cette quête dont je parle par rapport aux jeunes, cette quête dans la ville. Les gens croient qu'il s'agit d'une quête maternelle. Ça prend les apparences d'une quête maternelle, évidemment, sous la forme d'une quête d'affection. Mais il ne s'agit pas d'une quête maternelle, il s'agit d'une quête paternelle. Il s'agit d'une quête paternelle, mais... Ces gosses, tout enfermés dans une image d'une mère mythique, toute puissante, qui serait tout, imaginent pas le père autrement que sur le mode, comment j'allais dire, de la destruction, quoi. Mais c'est le grand quiproquo occidental sur confondre la fonction de vie, de renaissance du père... Et l'idée que nous faisons, et qui est une idée fausse, du père de droit romain, qui serait quelqu'un qui pourrait mettre à mort ses enfants. Voilà. C'est ça la clé de toute l'évolution du droit, et notamment depuis la Révolution. Détruire le père. Détruire le père, mais pour faire naître une mère phallique, sans limite. Et voilà les fils qui quêtent. Alors moi, ils quêtent, c'était quelques fils qui quêtaient. Ce que je voyais, mais cela représente l'ensemble des fils en quête, quoi. Les fils errants. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Avant l'avènement de la culture industrielle et des pouvoirs scientifiques, l'estampille était religieuse. Les religions n'ont pas à donner les raisons scientifiques de ce qu'elles font, parce que leur but est de mettre en scène des raisons de vivre, non de fournir des raisons scientifiques. Les religions disent aux hommes au nom de quoi ils vivent. De façon énigmatique, en mettant en scène l'au nom de quoi les hommes peuvent vivre, elles dévoilent une question. Qui nous marque ? Qui inflige à l'individu l'estampille de la culture et le rend à la fois semblable et différent des autres sur la planète ? Qui ? De qui ou de quoi s'agit-il dans ce qui ? Les anciens Grecs évoquaient Zeus, le père des dieux. Dans la civilisation des trois religions du livre, la Torah des Juifs, les Évangiles des Chrétiens, le Coran des Musulmans, il s'agit du Créateur, de Dieu le Créateur. Nous découvrons là, à l'échelle de la culture, la mise en scène du Père majuscule, le principe du Père. C'est au nom de ce principe que s'est organisée dans l'histoire de nos sociétés occidentales l'estampille, l'échafaudage des paroles fondatrices. En appeler au Dieu créateur, en appeler au principe du Père, c'est en appeler à un discours qui nous dise quelque chose de vivable. Au fond, l'humain demande à vivre. Il demande des paroles qui le fondent à vivre. C'est à cette détresse subjective de l'homme qu'ont fait face les religions par les techniques rituelles du marquage de chaque individu.
Jean-Claude Chanceau, Libourne, mai 1992.
Ce qui vient en premier lorsqu'on est confronté à ces situations, c'est un sentiment, je dirais même avant l'effroi, avant la souffrance, avant l'horreur, un sentiment de perplexité. Se demander en définitive pourquoi il a fallu qu'à un moment il n'y ait plus de paroles possibles, il n'y ait plus de gestes autres que brisants possibles, c'est-à-dire pourquoi un sujet, à un moment, se retrouve dans la situation où il ne peut qu'exprimer quelque chose qui va clore toute expression. C'est le comble, c'est le paradigme du désespoir et de l'anéantissement des liens. Alors les liens, quand on travaille sur et avec les enfants, c'est certainement le maître mot, ce qui relie, ce qui va faire en sorte qu'il y ait entre une histoire et un sujet, entre des personnes, des liens, des traces, des chemins, ce qui les met les uns par rapport aux autres, ce qui institue les préséances, ce qui organise les droits, les us, les coutumes et les interdits. Alors, on sait que l'adolescence, c'est au terme du cheminement ce qui d'un sujet a émergé d'une grande complexité et qu'il a pu faire son profit charnel, son profit culturel, le profit dans son corps des grands préceptes de l'interdit de l'inceste et de l'interdit du parricide. Alors cet adolescent sur lequel va travailler l'expert qui est un médecin, l'expert qui est aussi le voyageur qui suit des adolescents qui expriment autrement leur souffrance. Cet adolescent, c'est donc celui dont on parle, celui qui nous paraît avoir tout d'un coup perdu toute continuité dans ses liens. C'est-à-dire que les choses ont explosé. Alors, on essaie de percevoir ce qui, de cette explosion, de ce non-sens, peut encore être compris. Et j'allais dire, peut encore être recueilli. Il y a au moins une chose que l'on doit savoir, c'est que chaque fois qu'une souffrance n'a été ou a été la seule production d'une situation, le travail d'humanisation, c'est de faire donner par cette souffrance ce qui va permettre que peut-être elle ne se reproduise pas. Et que je crois que le travail de l'expert, c'est aussi là que cela se situe. Alors, est-ce qu'il y a des lois générales ? Je ne le sais pas. Moi, j'ai observé des faits. Des faits qui sont têtus, dont le sens est difficile à trouver, parce qu'on tombe dans des généralisations qui... Mais hein, je n'ai jamais expertisé d'adolescent qui puisse évoquer une histoire personnelle dans laquelle il y ait une continuité sereine. Alors, est-ce que cela existe ? Pour chacun d'entre nous, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que on peut parler dans une histoire, même quand elle est chargée de peine, d'émotions trop lourdes, de souffrances, on peut parler d'une continuité avec une relative ou même une forte sérénité. Une dynastie familiale, c'est un ensemble d'êtres qui, ensemble, essaient de donner une continuité dans leurs relations d'amour, dans leurs prestations de sollicitude, en dépit ou avec tout ce qui va représenter les ruptures, les avatars, les violences. Et il y a tout un travail de deuil, un travail de réparation, un travail de remise en mots, et qui fait que l'histoire d'un enfant, c'est l'histoire d'un être qui fait son profit des souffrances, des deuils, des désespoirs, mais en même temps des joies, des peines. Alors, je crois qu'il y a des biographies dans lesquelles ce travail qui est celui de la culture familiale, qui est celui de la valeur des mots, et qui est celui des dialogues des corps bien contrôlés, fait que, eh bien, il y a une sérénité qui peut être parfois dans la souffrance, qui peut être dans la tension, et puis une sérénité qui fait que chacun sait bien où est l'autre, en définitive. Comme s'il y avait, à l'instar de la relation du nourrisson avec sa mère, un coefficient de prévisibilité de ce que sera mon prochain familial. Et que je crois que les adolescents dont nous avons occupé, c'est ceux qui sont privés du minimum de coefficient de prévisibilité de ce qui va organiser les liens entre eux et les autres. Comme s'il y avait une espèce de chaos monstrueux qui fait que chaque situation, chaque moment, au lieu d'être une création, une invention, serait une irruption, une production insensée qui va venir comme cela exploser dans l'économie familiale et va projeter des morceaux d'idées, des morceaux de pensée, et que cet adolescent est devant des cadavres d'espoir, des cadavres de mots, des mutilations, et qui dénature, qui enlève le sens possible à ce qui le relie à ses objets d'amour. Et on voit à ce moment-là des signifiants énigmatiques, des sens archaïques venir occuper la scène, venir le bombarder, le bouleverser. Alors, je pourrais citer beaucoup d'exemples comme ça, où l'on voit des... je vais prendre un exemple. Pas par hasard dans ces histoires, hein, la mort d'un père. La mort d'un père, l'événement qui fait qu'un enfant, à un moment de sa vie, assiste ou apprend ou est confronté à la mort de son père. Bien. l'énormité du travail de ce que va impliquer ce tel bouleversement de l'économie familiale va convoquer tout ce que cette famille va fabriquer de capacités de substitut, de mise en mots, de fabrication du souvenir, de fabrication d'une mémoire, de fabrication d'objets ritualisés et sacrés, c'est-à-dire d'une forme cultuelle qui permettra que cette trace paternelle trouve une autre place que celle qui était assignée au corps présent, vivant et agissant du père. Et que ce travail permet des représentations partielles, des substituts momentanés, des concours de bienveillance, qui aboutissent à quoi ? À l'idée que la permanence de l'idée du père subsiste. Bien. Et puis, il y a les circonstances dans lesquelles cela n'est pas possible. Parce que ce père qui a disparu a été anéanti parce que sa propre histoire était anéantie. Parce qu'il n'était pas lui-même père d'eux et d'eux, qui n'avait pas été reconnu. Parce que s'il faut qu'un enfant soit reconnu, il faut également, il y a des pères orphelins de reconnaissance. Il n'avait pas été reconnu, il n'était pas arrivé avec une histoire qui le fondait comme père. Ce qui fait que, paradoxalement, sa disparition de père ne se repère pas. Il y a une espèce de trou, de disparition. Alors là, on est devant des fantasmes de quelque chose qui s'est volatilisé, du trou sans fond. Et les conséquences sont désastreuses, parce qu'il n'y a plus à ce moment-là de référence. Les substituts vont être des meurtriers, c'est-à-dire celui qui va apparaître en lieu et place, ou plus exactement dans ce lieu et dans cette place, va être ressenti comme celui qui a opéré le crime, la mort et la disparition. C'est-à-dire qu'il va devenir la forme la plus monstrueuse de l'énigme de la disparition. C'est-à-dire qu'il va instituer une haine implacable. On va voir revenir des conflits oedipiens, comme diraient les psychanalystes, mais sous une forme impossible à gérer, qui va prendre de l'archaïsme, qui va devenir monstrueusement agissante. Et dans la suite, il va y avoir la dénaturation de cette mère qui sera interdite d'un deuil. L'adolescent va se retrouver dans une espèce de mission, soit d'identification à cette présence, absence d'un père qui est insensé, dans une espèce d'ambassade de la toute-puissance revendiquée pour ce père, violence, souvenirs archaïques, haine, dans une espèce de réclame, de demande de réparation qui va jamais trouver de réponse, et qui va désorganiser tout un système de liens. Et on voit là qu'il y a toute une histoire, toute une généalogie, toute la qualité des liens, tout ce qui avait uni le père et la mère dans ce qu'ils pouvaient représenter pour l'enfant, tout ce qui avait représenté l'énigmatique, l'incompréhensible, l'imparlable des situations. Ce qui très vite nous montre que ce concept de famille désunie ou de milieu social défavorisé ne doit pas être entendu par cette partie voyante, immédiate, du conflit entre parents, mais par l'impossibilité à jamais que cela prenne du sens pour un enfant. C'est-à-dire, il a été laissé devant le vide de sens de toutes ces situations. On le voit dans les familles gravement endommagées. Ces familles gravement endommagées, tout perd son sens. Les rituels familiaux perdent leur sens. Par exemple, les repas perdent leur sens. Les repas en tant qu'institution familiale, hein, qui commence, il y a une place à table, qui n'est pas un concept bourgeois. Il y a une place parce que ma place, eh bien, elle n'est pas celle de l'autre. C'est important pour un enfant de réaliser qu'il n'est pas un autre. Alors c'est rituel, il y a une place, il y a des outils. Il y a la serviette qui est celui qui est l'outil qui va toucher le corps, qui va redonner le corps propre après les libations. Il y a les mots, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les choses. On ne cannibalise pas le corps de l'autre pendant le repas. Est-ce que je peux? Est-ce qu'il y en a? Ce qui veut dire, est-ce qu'il y en a pour nous tous? Est-ce qu'il y a un partage possible? Quelle humanisation? Alors, dans les familles qui vont très mal, toutes ces choses se dénaturent. On mange là où on est, on mange à la place d'un autre, contre un autre, on mange des choses qui n'ont pas été apprêtées, préparées, et puis c'est pareil, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. n'y a pas de matin, il n'y a pas de soir. Et puis très vite, il n'y a pas de dehors, il n'y a pas de dedans. On n'entre pas et on ne sort pas, on traverse comme ça, par effraction, les parois de la maison. Alors voilà des choses que nous trouvons très, très régulièrement dans ces moments extrêmes. Et je serais tenté de dire que la modeste place qu'occupe l'expert que je suis, et surtout le psychothérapeute d'enfance, c'est la même chose que j'essayais de dire tout à l'heure. Combien tout ce qui déshumanise, enlève à la dignité des sujets, expose au retour de tout ce qui a été peu à peu sauvé du chaos, de l'indistinct, de l'indifférencié. C'est-à-dire tout ce qui va permettre de nommer le sujet dans sa différence, dans son originalité, dans sa dignité, va nous renvoyer au danger exposé à cette perte de la différence, de la dignité, de ce qui fait l'originalité d'un sujet. Et dans les familles qui souffrent trop, les premières atteintes, elles sont là. Ce que j'appelle la perte de la place, c'est pas la perte de la place sociale. Notre humain est assez largement doté pour faire face à tout cela. C'est pas la perte de la place. C'est tout ce qui va porter atteinte à la dignité, le sentiment d'individualité, le sentiment d'être... vous savez, ce qui est très, très bouleversant chez les enfants qui vont très mal, dans les milieux qui vont très mal, c'est ce besoin qu'ils ont de décorer leur corps, de l'embellir, de le transformer en... Alors on voit là-dedans une espèce de discours de violence, de différence affichée comme implacable. Moi je dirais c'est probablement l'émoi de l'arbre de Noël qu'il n'y a pas eu. C'est désuet un arbre de Noël. Mettre des guirlandes, des bougies, c'est affligeant comme fantasme social. Mais quand on regarde ce que l'enfant regarde de ce qui lui est donné à voir dans la construction de l'arbre magique dans la famille, alors ça prend une autre dimension. Alors, je ne suis pas un fanatique de l'arbre de Noël, mais je suis sûrement un fanatique des émotions qu'il y a de construire de la lumière sous le regard de sa mère, par exemple. Et dans la conquête du nom, ce qu'on sait bien, c'est qu'il faut un sacré travail pour l'enfant avant d'avoir son nom. Regardez le travail des parents avant d'oser donner le nom à l'enfant. Tous les diminutifs. Mon poupinier, mon petit minet. Alors on passe par toute la zoologie, quelquefois même par toute l'épopée. Mon héros, mon ceci, mon cela. Et puis au bout d'un truc, il finit par s'appeler Louis, Albert, Lucien. C'est-à-dire de trouver enfin son nom. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il va bien.
Paci, paci, mirum gospodu provincia. Gospodi pomilu. Zastupi, spasi, pomiluj, sukrini nas, Bože, Tvojeju blagodatiju. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Твоя держава і Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині і присно і во веки веков.
Comme sur un écran de cinéma, l'humanité projette l'image de sa détresse en même temps que l'idée qu'elle se fait des paroles qui font vivre, multiples et indéfiniment réinventées, dans le style propre à chaque société et partout de par le monde, les projections religieuses ont distribué à profusion les raisons de vivre. Voyez comment les choses se passent dans ce vaste théâtre qu'ont été les religions familières de l'Occident. L'homme expose sa détresse et reçoit des paroles en retour. Écoutez le chagrin du peuple d'Israël pleurant sur son exil, le désespoir chrétien adressé à la Vierge Mère, l'invocation de l'absolu dans l'appel des musulmans à la prière. Là, tout est dit, de la plainte immémoriale, mais écoutez aussi les paroles en retour que résume dans sa magnificence dénudée la liturgie orthodoxe de Saint Jean Chrysostome, Jean à la bouche d'or. Là encore, tout est dit, mais cette fois sur le versant opposé à la plainte, après les litanies et les supplications, le divin Créateur est mis en scène dans des chants de triomphe. Le principe de vie triomphe, mais moyennant une part de sacrifice. La part de sacrifice, c'est le secret des formes liturgiques et rituelles. Pourquoi ces formes imposées? Tout simplement, les rites sont un forçage qui amène le fidèle à dépasser son cas, à découvrir sa propre plainte dans celle de l'humanité, à sacrifier ainsi quelque chose de lui-même en se reconnaissant parmi les autres. La marque généalogique de la culture, eh bien la voilà. Permettre à chacun d'entrer dans un discours universel, c'est-à-dire dans un discours qui ne soit pas « moi, 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 I, me and myself », comme dit l'humour britannique.
Ach, liebe Kinderlech, oi der Frühling schön beginnt, der Frühling schön beginnt, oi wie bin ich Kinderlech, mekanne eich hat zint, oi wie bin ich Kinderlech, mekanne eich hat zint. Ei, holiet, holiet, Kinderlech, kurz Mann, ihr seid noch jing, weil von Frühling bis zum Winter ist a Katzenspring. Sach, liebe Kinderlech, versäumt kein Augenblick, versäumt kein Augenblick. Nehmt mich euch herein ins Spiel, vergin mich euch das Glück. Nehmt mich euch herein ins Spiel, vergin mich euch das Glück. Ah, holiet, holiet, Kinderlech, kurz Mann, ihr seid noch jung. Weil vom Frühling bis zum Winter ist a Katzenbring. Ah, holiet, holiet. Guck nicht auf mein grauer Kopf, es stört aus euch im Spiel, es stört aus euch im Spiel. Oi, meine Schome ist noch jung, zurück mit Jahren viel. Meine Schome ist noch jung, zurück mit Jahren viel. Oi, holiet, holiet, Kinderlech, kurz wann ihr seid noch jung. Weil vom Frühling bis zum Winter ist a Katzenbring. Oi, holiet, holiet, Kinderlech.
Yann Thomas, Paris, juillet 1992.
Sur cette question du pouvoir dont nous sommes à Rome, du pouvoir romain qui fonde la vie, qui fonde la reproduction, mais qui ne peut être mis en œuvre qu'en étant garanti par un au-delà du pouvoir impérial lui-même, c'est-à-dire que derrière le pouvoir impérial, il y a la garantie des dieux. Autrement dit, qu'en est-il du montage généalogique au sens le plus général de ce terme? C'est-à-dire, qu'en est-il du principe de paternité, de l'idée même du père chez les Romains?
Oui, peut-être la manière d'aborder le plus directement et le plus franchement votre question est de dire qu'un père est un citoyen. Bon. Et je dirais un citoyen de plein droit. Que être père et être totalement, absolument et pleinement citoyen, c'est être père. Bon, il serait inutile d'entrer ici dans le détail des conditions juridiques
par lesquelles il faut passer pour devenir pleinement citoyen. Mais disons, pour faire bref, que les uns, les fils, mais alors, lorsque je parlerai de fils, il sera aussi question de filles, bien sûr. Mais pas lorsque je parlerai de père. Car un père n'est qu'un père, mais un fils peut être aussi bien une fille. Donc les uns, fils ou filles, sont, comme l'on dit, dans le pouvoir d'un autre. Donc, leur statut juridique est d'être, nous dirions aujourd'hui, aliénés. Aliénés en ce que leur subjectivité juridique n'est pas encore pleine et autonome, totalement autonome. Bien. Puis on passe par la mort même du père, ont les fils alors, par la mort même du père au statut de père. Bien. Et alors, le sujet en question cesse d'être aliéné, c'est-à-dire de relever de la mouvance juridique d'un autre, pour ne plus relever que de sa mouvance juridique propre, et se trouver ainsi dans l'état d'avoir d'autres sujets, c'est-à-dire à son tour des fils et des fils et des filles, pardon, dans son aire de droit, qui est bien sûr une aire de pouvoir, mais aussi une aire de protection. Le droit de vie et de mort est une formulation, une définition du pouvoir du père. Mais le droit de vie et de mort est aussi, et en même temps, une définition du pouvoir de l'empereur. Enfin, ce droit de vie et de mort est une définition non pas verbale, enfin discursive, mais représentée par des symboles et par les outils du pouvoir du consul, puisque le consul est celui qui se fait toujours précéder de licteur, précédé des verges pour battre à sang et des haches pour décapiter. Bien. Donc, avec le droit de vie et de mort, nous avons affaire à une définition extrême, j'entends par là ultime, du pouvoir. Alors, il ne faudrait surtout pas prendre cette définition, comme tant d'historiens l'ont fait, et continuent de le faire, à un niveau, je dirais, assez platement sociologique. C'est-à-dire, à partir d'une telle définition, faire le compte, le comptage, de tous ceux qui, étant pères, ont tué leur fils. S'étonner ensuite que si peu les faits, en si peu nombre, et en conclure que c'est une définition extrêmement archaïque du pouvoir qui n'avait plus cours, fort heureusement, dans un état dépassé. Autrement dit, avec ce pouvoir de vie et de mort, nous aurions affaire à un archaïsme heureusement dépassé par les Romains eux-mêmes, les pères, évidemment, ne tuant plus leur fils. Bon. Je ne sais pas si, à l'époque archaïque, les pères tuaient leur fils, mais tout ce que je sais, c'est qu'à l'époque la plus tardive, et encore dans le code de Justinien, le pouvoir, la puissance paternelle, n'a d'autre définition que celle-là. Nous avons donc affaire à une question de définition. Donc il faut nous demander pourquoi la puissance, c'est-à-dire le droit à l'intérieur duquel trouvent leur statut les fils et les filles, pourquoi la puissance est définie de manière aussi extrême, aussi excessive ? Pour bien comprendre une telle définition, il faut avoir en tête le maniement que les Romains font du cas limite. D'abord, si vous voulez, essayons de définir le syntagme lui-même. Le droit de vie et de mort se dit en latin « vitae nequisque potestas ». Enfin bon, je n'entre pas dans les détails des moyens de l'analyse de ce syntagme, des techniques d'analyse de ce « vitae nequisque potestas ». Tout porte sur le « que », qui veut dire « et », pouvoir de vie et de mort, mais ce « que » n'est pas un « que » disjonctif, c'est-à-dire qui sépare les deux notions de vie et de mort, c'est un « que » conjonctif. C'est un « que » conjonctif qui fait de la vie et de la mort une unité insécable. Alors, cette définition extrême et limite du pouvoir, c'est une définition du pouvoir en tant qu'il maintient en vie. Alors, il ne faut surtout pas nous imaginer que le pouvoir de tuer est un pouvoir d'exercice, si je puis m'exprimer ainsi. Il faut comprendre cela tout autrement, dans notre politique comme un pouvoir de grâce. Le pouvoir du prince, c'est le pouvoir de gracier, donc le pouvoir de ne pas faire ou de ne pas laisser mourir. Et dans l'ordre domestique, le pouvoir de dit de vie et de mort, c'est un pouvoir de maintenir, un pouvoir que le père a, de maintenir jusqu'à sa propre mort à lui, de maintenir en vie son fils, de sorte que son fils puisse prendre le relais du père. Voilà la question du droit de vie et de mort. Je la définis en ces termes parce que ce syntagme nous apparaît le plus souvent dans des contextes de droit successoral. On dit du fils qui succède au père qu'il lui succède étant sous la puissance du père en train de mourir, c'est-à-dire à ce moment même limite qui sépare en quelque sorte non seulement la vie de la mort, mais le pouvoir du père, dans le mouvement duquel le fils est tenu, d'un état d'autonomie du fils, où le père n'étant plus, le fils sera dans sa propre mouvance à lui. Toute vie, relève du prince. Et quand je dis relève du prince, je n'entends bien sûr pas que le prince soit le donateur de cette vie, le donneur de vie. Bien sûr que non. Mais toute vie dans l'institution politique relève d'une souveraineté. Elle relève d'une souveraineté en ce que cette souveraineté l'organise, finalement. Et la mort, le droit de donner la mort, doit être défini comme le cas limite, précisément, de l'organisation politique. C'est un cas central, et c'est un cas, si j'ose dire, capital, parce qu'il est justement limite. Mais c'est une limite à ne jamais franchir, précisément. S'agissant du droit de vie et de mort des pères sur leurs fils, qui paraît définir le taux de la puissance paternelle, nous avons affaire à un cas limite qui est en même temps un cas limite interdit. C'est-à-dire que le père qui tuerait son fils serait un meurtrier. N'empêche que le pouvoir qu'il exerce sur lui est défini comme un pouvoir de laisser en vie, ce pouvoir de laisser en vie qui est le corollaire du pouvoir de donner la mort.
Qu'est-ce que c'est que le rapport du pouvoir avec la divinité?
Le rapport du pouvoir avec la divinité, c'est le rapport du pouvoir avec un autre, et un autre qui lui est extérieur et qui le dépasse. Bon. En ce sens, il y a assurément dans la tradition romaine, républicaine ou impériale, des procédures où l'on voit bien que l'habilitation, ce que nous appellerions aujourd'hui l'habilitation du détenteur du pouvoir ou l'habilitation du prince est suspendue à une autorité, c'est-à-dire une autorisation d'un dieu ou du dieu. Exemple, les consuls d'époque républicaine détenaient leur pouvoir non pas du jour où ils avaient été élus par le peuple, non pas même du jour où ils avaient été investis par le peuple, mais du jour où ils avaient reçu du dieu Jupiter un signe d'approbation. C'est ce qu'on appelle les auspices. Le magistrat, aussitôt après avoir été élu, passait la nuit devant la porte de sa maison, attendait le lever du jour et à l'aube, captait les signes d'approbation jupitérienne. À partir de ce moment-là, il était saisi de son imperium. Voilà. Et c'est ce moment-là où on dit « suscipere imperium », c'est-à-dire, je traduirais presque littéralement, « à ramasser le pouvoir ». C'est d'ailleurs extrêmement intéressant, car ça montre que, à Rome, c'est peut-être un détail, mais c'est fondamental pour une histoire du pouvoir dans la très très longue durée, le pouvoir n'est pas détenu par la communauté politique, le pouvoir vient d'ailleurs. La communauté politique, en élisant le magistrat, fait acte de ce qu'on appellerait aujourd'hui une nomination, c'est-à-dire qu'il désigne le titulaire de ce qui sera le pouvoir, mais le pouvoir vient d'ailleurs. D'où vient-il? Du dieu, je n'en sais rien. Certes, le dieu donne son approbation. Cette présence des dieux dans le montage institutionnel est à Rome
d'une extraordinaire originalité, car le dieu peut être très bien remplacé par autre chose. On peut se passer des dieux, et d'ailleurs on s'en passe très bien. Comment dirais-je ? N'importe quelle institution, à condition qu'on la fuble du majuscule, peut tenir cette place de la garantie du dieu.
C'est ça.
Je pense très précisément à la loi d'investiture des empereurs romains. Bien, les empereurs, au début de leur règne, reçoivent par une loi un certain nombre de pouvoirs. Bien. Or, un passage de cette loi que nous connaissons par un document épigraphique de l'époque de Vespasien dit que l'empereur a le droit de tout décider, de tout faire et de tout exécuter qui soit conforme, c'est-à-dire qui ne puisse dépasser la limite de quoi ? Non pas de ce que veulent les dieux, non pas des normes que les dieux ont prescrites, mais de la majesté des choses divines et humaines, c'est-à-dire de la grandeur des institutions de droit sacré et de droit humain. Il faut entendre ici choses divines, non pas comme les choses produites par les dieux, mais comme les choses instituées par les hommes et qui concernent les dieux. Autrement dit, la limite est en quelque sorte immanente à l'institution elle-même. C'est comme par réflexivité de l'institution elle-même que la limite est posée comme l'autre du pouvoir.
C'est ça. Eh bien, autrement dit, on peut se passer des dieux, mais on ne peut pas se passer du tiers.
Le tiers garant est défini comme étant institué par les hommes eux-mêmes à l'intérieur même de l'appareil des institutions. La majesté, par exemple, n'est autre que la grandeur des institutions. C'est donc un dédoublement de l'appareil institutionnel lui-même. Ce que nous appellerons aujourd'hui l'État avec un grand E.
Est-il encore valide pour nous ? Historiquement, les religions ne commandent plus à la vie et à la reproduction de la vie dans l'humanité d'Occident et partout où l'humanité s'occidentalise. Mais à l'époque de l'ultramodernité, nous sommes toujours aux prises avec la détresse originelle, avec la nostalgie de l'enfance et la mort mystérieuse. Alors, l'homme regarde l'horizon lointain, il crée à nouveau les musiques qui lui parlent d'un autre monde, il s'invente des dieux nouveaux sans les dieux. Il faut indéfiniment marquer l'homme pour qu'il vive, le marquer au nom de l'horizon qui le dépasse et lui indique une irrémédiable limite. Le principe du père dans une société, ce n'est rien d'autre qu'infliger la limite à tout homme, en l'inscrivant dans les limites d'une filiation et dans la perspective de l'horizon inatteignable, indéfiniment recommencé. Les anciens disaient de ce pouvoir-là, le pouvoir de notifier la limite, qu'il ne pouvait être blessé, voulant dire qu'il s'agit, comme pour l'État moderne, d'un pouvoir fondé par la logique. Quel pouvoir médiateur et médiatique, un ou plusieurs, joue dans la culture d'aujourd'hui cette fonction d'imposer aux fils et aux filles, aux nouvelles générations, la marque du sacrifice, la marque d'humanité.
Civilisé, civilisé, reconnaissant, reconnaissant, mounielou, mounielou, mounielou.
écoutez La Fabrique de l'Homme Occidental, une émission de Pierre Legendre et Pierre-Olivier Bardet. Aujourd'hui, Lamarck. Avec, autour des textes de Pierre Legendre, Charles Malamud, Daniel Boulet, Jean-Claude Chanceau, Yann Thomas. Une émission préparée par Rose Greun et réalisée par Jean Couturier. Prise de son et mixage, Gilles Pesera, assisté de Pierre-Guillaume Clos.
C'était une émission diffusée le 13 octobre 1992 dans les Nuits Magnétiques, La Fabrique de l'Homme Occidental, suite, prochaine émission, La Chaîne.